RMC, Brigitte Lahaie, La Haye, l'amour et vous.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur RMC. Vous regardiez peut-être France 3 hier soir et donc vous avez compris quelle était la différence entre le plaisir qu'on recherche tous, enfin en tout cas plus ou moins, et puis un comportement addictif qui est donc une attitude qui devient une sorte de drogue et qu'on ne peut plus quitter. Alors bien sûr, nous allons aborder l'addiction sexuelle en particulier et c'est Laurent Carilla qui est mon invité. Il s'est spécialisé tout particulièrement dans les addictions sexuelles. Alors si vous êtes un accro du sexe, si vous êtes dépendant d'internet ou tout particulièrement des sites coquins ou des téléphones roses, ou si encore vous ne pouvez pas vous empêcher de vous masturber toutes les heures, et surtout si ce comportement vous fait de plus en plus souffrir, eh bien n'hésitez pas à témoigner afin que peut-être nous puissions vous aider à décrocher. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui vivent avec quelqu'un qui est dans une addiction. N'hésitez pas également à nous appeler. On pourra peut-être vous aider à mieux comprendre votre partenaire et puis donc à avoir une meilleure attitude, en tout cas une attitude plus juste et qui pourra l'aider à changer. 3216, voilà, c'est le numéro dont vous serez accro durant ces deux heures. Notre programme, eh bien, on retrouve Denise, bien sûr, comme tous les mardis pour notre Minute Libertine. En Actu Sexe, on va être accro d'entrevues puisqu'il y a un magazine, le magazine sort un hors-série spécial sexe. Et puis Nicolas a testé pour nous un masturbateur, bah oui, pour les hommes aussi, maintenant il y a des jouets intimes. En Love Conseil, je vous dirai si c'est bien ou pas de revoir ses ex. Une sexy news, on parlera de sodomie et on va décoder en alphabet amoureux le mot craving. Et puis tout à l'heure, si vous écoutiez RMC, vous avez entendu un gagnant qui va partir donc en voyage grâce au club Marmara. Et on a remis une jolie plage en route grâce à RMC et au club Marmara. Il y a 20 transats et parmi ces 20 transats, il y en a un qui va vous permettre de partir au soleil. Donc c'est simple, vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 6. Trois d'entre vous seront tirés au sort et pourront choisir un numéro donc de 1 à 20. Notre châtelain est là aussi, il vous attend. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous. J'ai déjà une question venant du chat, Brigitte.
Alors on va attendre un petit peu que notre invité soit là. Non, vous voulez la poser tout de suite?
Je vous la pose tout de suite parce que elle est soft. On me demande si une masturbation quotidienne, c'est considéré comme une addiction. Vous pouvez répondre.
Non, je crois pas. À moins que la personne soit vraiment obligée, quoi qu'il arrive, de se masturber. La différence entre le plaisir et l'addiction, c'est que l'addiction, on ne peut pas faire autrement. C'est un petit peu comme si c'était indispensable pour pouvoir passer une bonne journée. Bon, se masturber une fois par jour, il y a des hommes qui ont besoin de ça, des femmes qui ont besoin de ça. C'est pas une addiction, non.
Ok, bah écoutez, toutes vos questions sur rmc.fr.
Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour, vous avez 40 ans et vous avez eu un partenaire donc, qui était tout à fait addict d'Internet.
Oui.
Oui, on vous écoute Isabelle.
C'est pas très facile d'en parler en fait parce que j'ai été obligée de suivre une psychothérapie parce que sans le vouloir, en fait, ces addictions m'ont parasité aussi. C'est-à-dire que moi, je ne vivais qu'avec des images de ce que j'avais vu sur Internet que lui regardait en cassette. C'était surtout, bon, des femmes fortes, on va dire, des images de femmes avec des grosses formes, on va dire. Et moi, en fait, dans la rue, en fait, ces femmes-là, je savais que dès que j'en voyais une, j'avais qu'une envie, c'était de la tuer, quoi.
Ah oui, à ce point-là. C'est-à-dire qu'au départ, vous vous êtes rendu compte qu'il était beaucoup sur Internet.
Mais en fait, notre relation, il me l'avait caché et puis on a vécu ensemble. Et en fait, un jour, je suis allée pour aller voir un truc sur Internet et quand j'ai cliqué, je suis tombée sur ce qu'il fallait pas, quoi. Et j'étais piochée un petit peu plus, quoi. Et puis c'est là que je me suis rendu compte, les sites qu'il allait voir, des sites d'ailleurs qui lui coûtaient très très cher parce que c'était beaucoup de sites payants.
Bien sûr, oui.
Et puis, en fait, le soir, il attendait que je sois couchée pour aller voir ce genre de choses. Et puis après, au fil du temps, ça détruit, en fait, notre relation. Donc, on a, d'un commun accord, décidé de se séparer. On s'est séparés pendant 5 mois. Alors, pas la peine de vous dire, pendant ces 5 mois-là, j'étais très très mal, j'étais obligée d'aller voir un psychologue, enfin, un psychiatre. J'en ai beaucoup parlé avec lui, j'ai surtout beaucoup essayé de comprendre pourquoi il faisait ce genre de choses. Et puis, on s'est revus 5 mois après, donc, et puis on en a beaucoup parlé. Et puis en fait, eh bien, je me suis rendu compte que il avait des grosses raisons pour le faire, au début, on va dire. Et en fait, au début, c'était devenu, on dirait plus plutôt du, comment dire, bon, il avait des gros problèmes de relation avec les femmes. Et c'était quelque part pour se sentir vivant, un peu avoir l'impression de pouvoir avoir une vie sexuelle normale alors qu'il n'en avait pas. Et puis, au fil du temps, c'est devenu addictif, quoi.
Oui, c'est toujours le problème, c'est qu'au départ, on y va un petit peu pour s'exciter, pour se faire du bien, et puis ça de, on peut plus s'en passer. Et c'est là où on parle d'addiction, bien sûr.
Voilà, le problème, c'est que en fait, ce genre de choses leur bouffe tellement la vie, en fait, à ces gens-là, que leur cerveau, en fait, dans la journée, ne pense qu'à ça. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison pour aller sauter sur Internet. Ils passaient des heures et des heures, même des nuits.
Ça vous a aidé de comprendre le processus et de comprendre pourquoi il était devenu accro?
Oui, j'ai très très bien compris. Et puis aussi, moi, ça m'a aidé moi aussi à me déparasiter surtout, à être un peu plus objective et puis à être surtout objective dans le sens de l'aider. Je pense que si j'avais vraiment pas eu un amour très très fort pour cet homme-là, et lui aussi d'ailleurs, parce que c'est ça qui est un petit peu contradictoire.
Aujourd'hui vous êtes ensemble, ça y est, et il a commencé à se soigner.
Alors il va dans un centre d'addiction, en fait, il est suivi donc par tout un groupe, toujours par son psychiatre aussi. Et moi je voudrais juste te dire une chose, c'est que si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que lui de son côté il s'est rendu compte que le virtuel, c'est bien, mais le virtuel, c'est, on dirait, un feu de paille, en fait. Le virtuel, c'est pas ça, la vie, quoi, et ça empêche, en fait, de vivre une vraie relation avec une femme, et en fait...
Je crois surtout qu'il s'est rendu compte qu'il a failli vous perdre, et puis je crois qu'il tient à vous, et ça a peut-être été le moteur, d'ailleurs, pour qu'il aille se faire soigner.
Mais d'ailleurs, il me l'a dit, hein, il m'a dit, tu sais, si j'avais pas rencontré une femme comme toi... qui me comprend, qui a su supporter tout ça et qui malgré tout est encore là aujourd'hui, je crois que je n'en serais jamais sortie. En fait, je suis sa carotte, si vous voulez, c'est con à dire, mais je suis la chose qui l'aide en fait à se battre contre tout ça et à s'en sortir. Et maintenant.
Mais vous savez, Isabelle, vous parlez de carotte, c'est une image qui est très très parlante parce qu'au fond, faire l'effort de changer de comportement. Si on a une récompense, c'est toujours plus facile.
Bah, je ne veux pas dire que je suis une récompense, mais...
Moi je le dis, je crois que c'est... Vous savez, il n'y a rien de mieux quand même qu'une relation de couple qui nous apporte l'amour et peut-être un peu de sexe que des images virtuelles qui, au fond, ne donnent l'impression de combler une solitude, mais nous laissent quand même sur notre faim après.
Mais en fait, moi, ce qui m'expliquait, c'est que... Le virtuel, en fait, c'est chez les hommes qui sont addictifs au sexe sur Internet, ça devient des pulsions qu'ils peuvent plus contrôler. C'est comme, en fait, on faisait l'image, c'est comme, en fait, un alcoolique, en fait, un
bien
mec
sûr,
qui dit à sa femme, non, non, mais je bois plus, mais en cachette, il peut pas s'en empêcher. Et tant qu'on... On ne peut pas, nous, femmes, compagnes de ces hommes-là, on ne peut pas les obliger à... c'est comme quelqu'un qui veut pas arrêter de fumer, on lui dit arrête de fumer. Plus on lui dit, plus il le fait. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre pourquoi la personne le fait. Après, une fois qu'on a compris, on peut mieux l'accompagner. Bon, je dis pas que c'est facile, hein, il y a toujours c'est toujours sur la lame du rasoir, on va dire, il faudrait pas grand chose des fois pour que ça redévie.
Je ne sais pas Isabelle, parce que je crois que vous avez vraiment compris le processus et vous êtes, enfin on l'entend en tout cas dans votre témoignage, vous êtes prête à l'aider et à avancer avec lui et éventuellement à pardonner les deux, trois petites rechutes qu'il peut y avoir. Donc je crois vraiment que il a de la chance de vous avoir rencontré et je pense que ça va marcher, vous inquiétez pas.
Je voulais juste dire une seule chose pour les femmes qui ont des hommes qui sont comme ça. Si elles n'ont pas au fond d'elles un amour très fort pour cette personne-là, c'est pas la peine.
Moi, je parlerais de générosité au sens large du terme. Vous savez, je crois qu'il faut essayer de toujours se rendre compte que quand quelqu'un souffre au départ, quand quelqu'un est malade, parce que l'addiction, c'est au fond, c'est une maladie, il y a souvent au départ une souffrance. Et donc, un peu de générosité. Tout le monde n'est pas aussi fort qu'on le voudrait.
La seule chose qu'il faut faire, en fait, c'est pas dire oui, c'est dégueulasse ce que tu fais, machin, pourquoi tu me fais ça. En fait, il faut comprendre à la base pourquoi cette personne-là, elle a besoin d'aller voir ce genre de choses. C'est la seule manière, en fait, pour l'accompagner, pour l'aider à écouter, à comprendre et à l'aider à s'en sortir et, en fait, à vraiment. La décision, il faut qu'elle vienne de la personne d'elle-même. Nous, on ne peut pas le faire à leur place.
Merci, donc, Isabelle.
Quand ils ont pris la décision de le faire, il faut les accompagner, c'est surtout ça.
J'aime bien votre enthousiasme et votre envie d'aider toute personne qui nous écoute et qui serait peut-être dans votre situation. Oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup, Isabelle.
Je vous en prie.
Merci à vous. Denise est avec nous en direct du 41. Bonjour, Denise.
Bonjour, Brigitte.
Alors, est-ce qu'on peut être accro du libertinage?
Oui, il y a des gens qui sont accro du libertinage et qui viennent régulièrement 3-4 fois par semaine. Alors, je ne sais pas si c'est être accro, venir 3-4 fois par semaine, mais qui en plus sont accros d'Internet aussi. Ils vont aussi visiter les sites et regarder les films porno, puisque moi, ils me racontent assez bien leur vie. Et donc, je sais qu'ils visitent même les femmes aussi. Hein. Ce n'est pas consacré seulement aux messieurs. Il y a des femmes qui, en rentrant chez elles le soir, elles se mettent à visiter tous les sites et à chercher qui va correspondre à ce qu'elles cherchent.
Et les femmes, c'est peut-être plus sur des sites de rencontres, non ?
Sites de rencontres, mais aussi des sites coquins. Mais c'est vrai que c'est surtout les messieurs. Bon, est-ce que quand on se masturbe 7-8 fois dans une nuit, on peut se dire qu'on est addictif ? Je ne sais pas. Je sais que ça arrive à certains messieurs et qu'en plus, ils vont aussi visiter tous ces sites-là. Mais je crois que la dame a bien compris le problème. Pour les aider, il faut les comprendre. Et au lieu d'être contre...
Au lieu de juger, oui. D'abord, essayer de comprendre, absolument.
Essayer de comprendre et puis de gérer au mieux la situation en leur apportant le plus ce qu'ils désirent. Hein. Je crois que dans le libertinage, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Hein. Donc,
Mais Denise, est-ce que vous pourriez faire la différence entre les personnes qui viennent au 41 dans un esprit comme ça, un peu hédoniste, libertin, et les personnes qui sont des accros du sexe et qui viennent pour baiser le plus possible?
Je fais complètement la différence parce que moi, les messieurs qui arrivent en me disant on baise quand? Qu'est-ce qu'on baise? Où on baise? Qui on va baiser? Je m'excuse, hein, mais c'est aussi cru que ça. Moi, je leur dis tout de suite, écoutez, si c'est dans cet état d'esprit, c'est même pas la peine de rester parce que ça se passe pas comme ça. Et d'abord, il y a la séduction, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, il faut respecter les dames, ça se pratique pas comme ça. Ils arrivent comme des fous et ils cherchent le sexe. Et ça, je dis tout de suite, c'est pas...
Oui, vous faites bien la différence. Oui.
Oui.
Merci Denise, merci beaucoup.
Merci Brigitte.
Au revoir. Isabelle, vous êtes avec nous sur RMC. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Vous avez 35 ans, vous êtes avec quelqu'un depuis 7 ans.
Oui, voilà.
Et vous avez des doutes.
J'ai des doutes, j'ai des doutes. Et en fait, c'était plus pour avoir un conseil.
Mm-hmm. Dites-moi alors.
Parce que là, j'ai l'impression de rentrer un peu dans une psychose. Parce que voilà, je suis avec une personne depuis 7 ans. Et là, il y a 3 jours, en fait, c'était vendredi, cette personne a reçu un texto sur son portable.
Mm-hmm.
Et il le lit devant moi. Et sur ce message, il y avait écrit c'était une femme, comme quoi elle voulait prendre de ses nouvelles et que dès que possible, de la rappeler. Donc moi, j'ai voulu avoir une explication. Mon conjoint, lui, il est resté sans rien me dire toute la fin de journée jusqu'à ce que je finisse par lui demander plusieurs fois qui était cette personne.
Mm-hmm.
Donc il a fini par me dire que c'était son ex qui date de 10 ans. Donc là, je suis restée bouche bée, comme on dit. Je me suis dit, Et bah, là, il y a eu plein de questions qui se sont défilées dans ma tête en me disant, bah, si ça date de 10 ans, comment ça se fait que c'est aujourd'hui qu'il y a l'appel? Comment ça se fait qu'il a son numéro depuis 10 ans, qu'elle aussi a conservé son numéro depuis 10 ans? Et il me dit que bah, c'est un hasard, quoi. Mais bon, moi, je me dis que, je sais pas, si moi, je prends contact avec une personne qui date de 10 ans, je sais pas, c'est pas ce
type. Attendez, c'est pas lui qui a pris contact, c'est elle. Hein. Et en plus, il lit le texto devant vous, donc...
Oui, mais parce que, voilà, parce que ça a été fait de façon... En fait, le texto, il, voilà, son téléphone n'arrêtait pas de sonner et il était en train de dormir. Je lui dis, tiens, ton téléphone, il n'arrête pas de sonner. Mm-hmm. Donc, effectivement, il a lu tout de suite comme ça, sans se rendre compte que... Peut-être sans se rendre compte qu'il allait peut-être lire un message qui pouvait être suspect. Mais en tout cas, bon, ça a été fait de façon... peut-être pas réfléchie non plus. Mais là où je me suis posé plein de questions, parce que dans le message, à aucun moment, la personne, elle se présente. Mais lui, il a tout de suite vu qui c'était cette personne-là. Donc moi, je me dis que, enfin moi, si je dois envoyer un message à une personne que je n'ai pas de contact depuis 10 ans, le minimum, c'est que je me présente. Pour que ne serait-ce que la personne sache qui je suis.
Oui, mais Isabelle, ils sont séparés depuis 10 ans, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de contact depuis 10 ans.
Lui, il n'en a pas eu depuis 10 ans. Mm-hmm. Qu'il n'a jamais eu de contact avec elle depuis 10 ans. Et moi, d'après le message, c'était pas un message qu'on envoie. Enfin, rappelle-moi dès que tu peux. Je sais pas, c'est pas un message qu'on envoie à quelqu'un qu'on n'a pas de contact depuis 10 ans.
Mais vous craignez quoi? Vous craignez qu'il...
Ça m'a mis plein de doutes parce que je me dis qu'en fait.
Ça, je l'entends bien. Mais qu'est-ce que vous imaginez au fond?
Je voudrais une explication parce que quand il me dit que je suis pas en contact avec elle depuis 10 ans. Ça me paraît...
Vous savez, le problème, Isabelle, c'est qu'on entend bien toute votre inquiétude et qu'on peut comprendre, évidemment. Et ce que je crains, c'est que se sentant un petit peu accusé, même s'il n'est absolument pas coupable, il s'est peut-être emmêlé un petit peu dans le tapis.
Oui, mais je trouve que ça fait trop de coïncidences.
Je ne dis pas qu'il n'y a peut-être pas quelque chose. Je dis simplement que... Dans ce que vous me dites, rien ne prouve qu'il y a vraiment quelque chose, si ce n'est votre imagination et vos craintes, et ce qu'on peut comprendre, bien sûr, encore une fois. Hein. Mais je crois qu'il faudrait peut-être mettre les choses un peu plus à plat.
J'essaye depuis 3 jours.
Oui, mais ça, c'est difficile pour vous parce que vous êtes, votre imaginaire fonctionne et là, vous pouvez plus l'arrêter. Quoi qu'il vous dise, si vous voulez, ça va se retourner contre lui.
Oui.
Et c'est ça qui est embêtant dans ces histoires-là, c'est que au fond, au départ, il y a peut-être pas grand-chose. Lui, en même temps, s'est dit oh là là, il s'est peut-être senti mal à l'aise, il vous a peut-être un petit peu raconté un petit mensonge, et du coup, ça prend des proportions extraordinaires.
C'est un petit mensonge plutôt que prendre justement des...
Oui, mais là, il est peut-être, il sait peut-être plus très, très bien comment rétablir la vérité. Parce que justement, vous êtes dans une attitude là très, très accusatrice.
Oui, mais...
Ce que je comprends, hein, encore une fois, j'essaie juste de dédramatiser les choses. Et de toute façon, vous savez, quand on a un SMS d'une ex dont on est séparé depuis 10 ans et qu'on est avec une femme depuis 7 ans, c'est pas de là que peut arriver le danger.
Oui, mais alors à ce moment-là, quand je lui demande de ne serait-ce que d'appeler la personne, de lui dire « Écoute, je suis déjà avec quelqu'un, ne m'envoie pas de message », pourquoi il veut pas le faire? Pourquoi il veut pas se mettre en contact avec cette personne-là devant moi? Parce que là, c'est la seule chose que je lui demande, en fait, c'est de, devant moi, qu'il me dise à cette personne, ne prends pas contact avec moi, je suis avec quelqu'un.
Mais Isabelle, je vous comprends très bien, parce qu'on est entre femmes, mais les hommes ne sont pas toujours très, très malins.
Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse comme si rien n'était, puis que...
Moi, je crois vraiment qu'il faut oublier cet incident et voir comment il va réagir dans les, dans les jours qui viennent.
Par le passé, il a déjà trompé ses anciennes femmes et avec cette personne-là déjà. Donc, c'était une ex de 10 ans, mais il a déjà trompé sa première femme avec cette personne-là. Donc, je me dis que c'est quand même une histoire qui date de presque 20 ans.
Oui, non, mais peut-être que cette femme est particulièrement, on dit vénéneuse, hein, c'est un peu ça l'expression de ce genre de femme. Et peut-être qu'elle le recontacte et vous avez peut-être pas tort de vous méfier. Mais je crois pas que ce soit en ayant une attitude comme ça très accusatrice que vous allez aplanir la situation. Vous voyez.
Moi, il cherche pas à me rassurer en me disant qu'il cherche pas à me rassurer. Donc il me laisse vraiment dans, comme vous dites, dans mon imagination. Donc pourquoi il me laisse dans son imagination, dans mon imagination? Mais
peut-être parce qu'il ne sait pas comment vous prendre, il ne sait pas comment vous rassurer. Peut-être qu'il a essayé au départ un peu de vous rassurer et puis que vous n'avez pas réagi de la bonne manière tellement vous étiez un petit peu en colère. Voyez, moi c'est un peu ce que j'imagine dans ce que vous me dites. Encore une fois, je ne sais pas. Hein, il faudrait que j'ai sa version. Moi, je vous conseille de laisser un petit peu les choses à plat et voyez comment il va réagir dans les quelques jours qui viennent.
Oui, s'il n'y a pas de confiance, je pense que...
Non, mais essayez de vous calmer. Si il vous aime et s'il tient à vous, il va revenir vers vous et il va essayer par des attentions ou par beaucoup de présence de se faire pardonner parce qu'au fond de lui-même, il sait très bien que ça vous a fait souffrir et il s'en est rendu compte. Mais si vous continuez à être agressive, forcément, comme beaucoup d'hommes, il va se mettre en retrait et il va se défendre.
Oui, mais de toute façon, là, bon, ça fait 3 jours qu'on parle de ça.
C'est 3 jours de trop.
Oui. Non, mais c'est surtout qu'il me dit, de toute façon, si t'as pas confiance en moi, je vois pas que... Ça sert à rien de continuer, non mais...
Mais voyez bien que c'est une réaction d'homme, c'est-à-dire que au lieu de tout simplement dire, bon ok, tu as raison, c'est stupide, excuse-moi, j'aurais dû lui renvoyer un texto en lui disant que je suis avec toi, que je t'aime. Bon, il a pas voulu le faire par orgueil, par je ne sais quoi. Et là, plus vous allez le mettre au pied du mur, plus il va réagir comme ça. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, Isabelle. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, quand on accuse quelqu'un, surtout s'il n'est pas coupable, eh bien ça provoque une réaction inverse de celle qu'il devrait avoir.
Mais je voudrais justement savoir s'il est coupable ou pas, ne serait-ce que parce que voilà, si même s'il est coupable, voilà.
Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit coupable? Rien ne.
Non, mais s'il est coupable, ça me donnerait. En fait,
vous savez comment on procède en justice?
Non, mais c'est-à-dire que s'il me dit voilà, il a fait.
C'est à la partie adverse de prouver la culpabilité, c'est pas.
Ah ben voilà, mais oui, bah oui.
Bon, alors vous allez arrêter de lui faire ce procès, Isabelle. Je vous assure, il faut vraiment vous calmer. C'est terrible ces textos.
Ouais,
on n'est pas responsable, Isabelle, de personnes, d'ex qui nous tout d'un coup nous harcèlent ou nous envoient un texto compromettant. D'autant que parfois même, il y a des sites ou des sites roses qui envoient des textos compromettants. Alors vous voyez, on n'a pas fini. Hein, si on se met à accuser notre partenaire au moindre signe un petit peu bizarre, calmez-vous un petit peu et laissez.
Donc ça me semble pas étrange qu'on conserve ce numéro depuis 10 ans de ses ex.
Ça me semble pas du tout étrange que s'il n'a pas changé de numéro de téléphone depuis 10 ans, ça ne me semble pas du tout étrange que tout d'un coup il reçoive un texto d'une ex qui peut-être. Mais écoutez, restez avec nous et écoutez le Love Conseil de tout à l'heure. Vous verrez que parfois, quand on se retrouve seul, on essaye de renouer avec ses ex. Ça arrive. Et peut-être qu'elle a envie, en effet, d'avoir une relation avec votre compagnon. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a envie.
D'accord.
Merci Isabelle.
Merci.
Bon courage.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant. Nous accueillerons notre invité Laurent Carilla. N'hésitez pas, 3216, si vous avez des addictions sexuelles, on est là pour en parler. A tout de suite.
RMC Brigitte Lahaye. Actu.
Eh bien, vous serez peut-être addict de entrevues cet été puisque un hors-série consacré uniquement au sexe vient de sortir dans les kiosques. Antoine Agostiner est avec nous pour en parler. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Donc ben oui, c'est pour l'été, j'imagine que vous sortez ce hors-série spécial sexe.
Bah effectivement, on va dire que la période d'été s'y prête très bien. Il est sorti vendredi et il sera donc en kiosque pendant 2 mois.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que moi, je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai demandé qu'on me l'amène vite, vite, vite. Et puis voilà, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc je ne sais
Quel
pas
dommage.
Ce qu'on y trouve.
Alors en fait, c'est un hors-série qui se décompose un petit peu selon les mêmes thématiques que le magazine Entrevue. C'est-à-dire que vous avez une première partie en fait de zapping où en fait bah, on met beaucoup d'extraits d'émissions un petit peu sexy qu'on peut trouver aussi bien sur les chaînes hertziennes que sur les chaînes du câble et du satellite. Mm-hmm. Vous avez ensuite une partie people dans laquelle on a des interviews de stars. Donc sur ce numéro aussi, aussi bien Dita Van Tis que Lali, que d'autres personnes, donc par rapport à des sorties de livres, aussi bien et aussi.
Oui, on imagine bien qu'il n'y a pas une interview de Benoît XVI.
Vous avez également une partie médias télévision. Mm-hmm. Voilà, avec un article notamment sur une chaîne qui s'appelle Télépigale, qui est une web TV. Et puis vous avez une partie de société avec aussi bien des sujets, on va dire, très photogéniques que des enquêtes. Et puis enfin une partie internet.
Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un spécial, c'est un magazine comme Entrevue, sauf que tout et tourne autour du sexe. Donc on imagine bien évidemment que les ventes seront bonnes. Merci Antonio Agostinelli.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Et oui, on ne pense qu'à ça. Laurent Carrie, là, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-auteur avec Michel Reynaud qu'on avait reçu il y a un mois à peu près pour votre ouvrage On ne pense qu'à ça aux éditions Flammarion. Et vous êtes plus particulièrement spécialisé dans les addictions et notamment les addictions sexuelles. Et moi, j'ai l'impression, ça fait 8 ans maintenant que je fais cette émission, donc j'ai quand même un vrai panel. J'ai l'impression que ça va en augmentant. J'allais dire en s'aggravant, mais ce serait un jugement de valeur. Donc je vais dire, ça va en augmentant. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes, d'hommes, plus particulièrement évidemment, qui sont dans la dépendance d'Internet ou de films pornographiques.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, on s'aperçoit depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans maintenant, que les demandes de consultation ont changé. Et le motif, il y a 5 ans, c'était des motifs pour dépression, troubles du sommeil, anxiété. Et on trouvait derrière ça des problèmes sexuels, des problèmes d'addiction sexuelle. Et maintenant, les gens viennent consulter pour un problème d'addiction sexuelle. Ils disent, je crois que je suis accro au porno sur Internet, je crois que je suis accro aux chaînes télé, je crois que je suis accro aux boîtes échangistes, je crois que je suis accro... Enfin, tout ce que l'industrie du sexe peut vendre, certaines personnes en sont accro et viennent consulter pour ce motif-là. C'est vraiment un vrai motif médical. Et c'est surtout des hommes, ouais. C'est 3 hommes pour une femme à peu près.
Alors peut-être la vraie question à poser tout de suite, c'est à partir de quand on considère qu'on est addict ?
Alors, pour l'addiction sexuelle, il y a des critères qu'on a redéfinis, si vous voulez. C'est le premier critère, ce serait au moins un orgasme par jour pendant au moins.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir au moins un orgasme par jour, mais il y a d'autres critères associés, c'est-à-dire c'est quelque chose de très continu, de très régulier, qui s'accompagne de perte de temps, de perte d'argent et de conséquences sur la vie de couple, sur la vie sociale, sur le travail. Et sur les loisirs. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien d'avoir des orgasmes tous les jours, c'est super, ça, plein de gens en ont, mais si ça s'accompagne d'événements comme la perte de contrôle, un besoin, une envie irrépressible d'un coup de vouloir télécharger un porno et de se masturber, etc.
Ça nous fait arriver en retard au travail.
Ça nous fait arriver en retard au travail.
Ou des scènes
certaines...
avec sa femme.
Tout à fait. Et il y a même certaines personnes qui se sont fait prendre sur leur lieu de travail en train de télécharger du porno, avec les conséquences qu'on imagine.
Et la masturbation, tout à l'heure, un chatteur posait la question, se masturbant une fois par jour, donc je lui ai donné l'absolution. Mais est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui se sent obligé de se masturber une fois par jour, c'est une addiction ou pas ?
Alors c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'orgasme, on peut l'avoir via la masturbation, donc on peut imaginer de se masturber une fois par jour.
C'est gratuit au moins.
C'est gratuit aussi, oui. Enfin là, globalement, tout est gratuit. Tous les supports sont gratuits pour devenir addict. Mais on peut se masturber une fois par jour sans être addict. Il y a des critères de masturbation compulsive, c'est une maladie aussi qui fait partie des addictions sexuelles. La masturbation compulsive, c'est 5 à 15 actes par jour.
Là, on commence à avoir des ampoules aux mains. Oui.
Voilà, c'est ça, des ampoules aux mains et des blessures péniennes surtout. Et ça touche aussi les femmes, puisque je viens de soigner une femme qui avait un problème de masturbation compulsive.
D'accord. Et est-ce que on on pense que c'est parce que la société est plus stressante, qu'il y a plus d'addiction, ou est-ce que c'est parce que le marché du sexe envahit tout? Quelle est la cause, ou peut-être que c'est une sorte d'histoire de poulet d'œuf?
Non, je crois que l'addiction sexuelle, c'est un peu comme les autres addictions, aux drogues ou à l'alcool. C'est vraiment des interactions entre des facteurs personnels, comment on est psychologiquement, comment on est biologiquement, qu'est-ce qu'on nous a transmis. Tout ceci interagit avec l'environnement, donc la société, le marché du sexe, enfin tout l'environnement, et puis la rencontre justement avec le sexe.
Bon, et bien je crois qu'on a bien planté le décor. On a évidemment déjà des appels, et grâce à vous, grâce à vos témoignages, et bien je pense que durant ces deux heures, on comprendra mieux les addictions, et surtout, c'est toujours, vous le savez, mon objectif, ça nous rendra peut-être un peu plus tolérants, et donc ça nous permettra d'aider ceux qui souffrent autour de nous. 32-16, n'hésitez pas à témoigner, on se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Et nous avons ce mail aussi, hein, au sujet de la masturbation. Il n'a pas donné son prénom. On peut peut-être comprendre pourquoi, parce qu'il y a souvent quand même un petit peu de honte face à son addiction, et c'est pour ça qu'on est souvent d'ailleurs dans un déni. Hein.
Tout à fait. Pour l'addiction sexuelle, il y a une espèce de cycle qu'on a. Ça commence par un facteur déclenchant, du stress, ça peut être n'importe quoi, un facteur déclenchant. Et tout d'un coup, on est envahi par une pression sexuelle intérieure, un sentiment de tension sexuelle. Et on va se sentir obligé de transgresser, de passer à l'acte. Donc ça peut être n'importe quel acte. Ça peut être voir une prostituée, se masturber. Prenons le cas de la masturbation. Il va y avoir masturbation dans un contexte comme ça un peu, je dirais, pathologique, maladif. Et il y a une triade derrière, c'est la honte, le désespoir et la culpabilité.
Absolument.
C'est toujours la même chose.
Donc je n'ai donc pas le prénom de cet homme, on a compris pourquoi. Et il nous dit, je me masturbe 10 fois par jour sur vos films porno et ma femme n'aime pas ça, comment faire? Alors sur mes films, là il y a peut-être un peu de provoque, on ne va pas relever forcément ça. En tout cas, 10 fois par jour devant des films, on est dans une addiction, ça c'est sûr.
10 fois par jour devant des films, enfin 10 fois par jour, on est avec les retentissements sur le couple, on est dans un phénomène addictif. Et franchement, pour y remédier, il vaut mieux essayer de consulter.
Oui, je crois que c'est compliqué, hein, surtout que là, sa femme, ça peut se comprendre, elle n'aime pas ça. C'est vrai qu'elle se sent quelque part exclue, et puis ça peut aussi la mettre en rivalité. Donc, aller consulter, c'est la meilleure solution de toute façon.
Il faut qu'il soit d'accord, parce qu'on ne peut pas le soigner contre sa volonté.
Exactement, oui. Mais
et
bon.
La femme peut aussi être... Enfin, moi, je reçois les couples en consultation... Parce que ça aide aussi d'avoir sa femme ou son conjoint à certaines consultations.
Oui, on l'a bien vu dans le premier témoignage, hein, comment Isabelle, justement, le fait d'avoir compris ce qui se passe, ça lui donne envie d'aider son compagnon. Et c'est toujours plus facile à deux.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour.
Et alors, est-ce qu'on peut être addict à l'amour, Laurent Carilla?
Je pense que oui, on peut être addict à l'amour.
Oui.
On peut être addict à l'amour. Alors,
à la passion, en fait.
À la passion amoureuse. Oui, on peut être addict à l'amour. On le dit bien dans notre livre, on ne pense qu'à ça. Enfin, Michel Reynaud, c'est plus son domaine, la passion amoureuse.
J'ai cru comprendre, oui.
Voilà.
Oui.
Enfin, ça ne veut pas dire que j'aime pas l'amour. Hein. Mais oui, on peut être addict. Et pour certaines personnes peuvent... tomber dans le côté négatif de la passion amoureuse avec ce truc très maladif, très addictif qui
oui,
peut poser
de quitter
des
pour retomber
voilà.
Amoureux très très vite. Oui. Corinne est avec nous. Vous avez 48 ans et vous aviez un ami qui était donc addict au livre sadomasochiste. C'est bien ça? Bonjour Corinne.
Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Oui.
Mm-hmm.
Allô, je vous entends très très mal.
Ben nous on vous entend, ça va.
Voilà. Oui, ben voilà. D'abord, je vous remercie pour votre émission. Ce serait magnifique que tout le monde l'écoute. Je pense beaucoup de solutions à des problèmes du couple. Et moi, j'ai eu des problèmes pendant des années avec mon partenaire. J'ai 4 ans que nous sommes séparés. Et nous avons eu des problèmes à cause des livres érotiques. Il était vraiment addict de ce genre de livres. Je m'en suis rendu compte au bout de vie commune. Le soir, il se levait pour consulter ses livres et se masturber. Quand j'ai découvert ça, ça m'a un petit peu choquée. On en a parlé et puis petit à petit, il j'ai acheté des livres de plus en plus hard, et de pratiquement sado-maso, et mon sexualité s'en est ressentie, parce que quoi que je puisse faire, je pouvais être coquine, je pouvais me déguiser, on pouvait faire des jeux, c'était jamais satisfaisant, parce qu'il ne retrouvait pas dans notre sexualité ce qu'il lisait dans ses livres, et à tel point que c'est arrivé à une sexualité à zéro.
C'est-à-dire que vous aussi, j'imagine, ça vous faisait vous détacher de lui sexuellement. Au début, vous essayez de lutter, si je puis dire, contre votre rival qui est complètement virtuel, là encore. Et puis, à un moment donné, vous baissez un peu les bras, je suppose.
Ah, j'étais dépassée, parce que ses livres sont quand même très, très hard. Alors, de temps en temps, je lui en piquais un, je lui disais, allez, on lit ensemble, tu verras que c'est pas possible. Ces témoignages, c'est du roman. J'ai dit, attends, dans la vie, c'est pas ça. Je veux bien qu'il y ait des femmes qui soient vraiment...
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Corinne, excusez-moi, je vous coupe, mais je voudrais la réaction de Laurent Carilla. Quand Corinne essaye de participer justement avec son compagnon donc à la lecture, ça peut pas marcher ou ça peut marcher?
Disons, ça peut marcher... Bonjour madame. Ça peut marcher... Ça peut marcher une fois que les choses sont stabilisées, en fait. Visiblement, il y avait un problème qui était latent, on peut imaginer... plein de causes à ce problème-là, qui était latent, qui traînait. C'est un phénomène plutôt addictif, mais très très ciblé sur des supports sadomasochistes. Et on voit bien dans ce qu'elle nous dit, c'est qu'il avait toujours besoin de plus fortes doses pour être plus excité. Et je pense qu'on aurait pu imaginer d'abord une prise en charge tout seul et à deux, puis après réintroduire des jeux sexuels dans le couple, etc. Puisque je suis contre l'abstinence sexuelle, même chez les addicts.
Oui, donc Corinne, en fait, vous aviez, à l'époque, on parlait peut-être pas non plus tellement des addictions sexuelles. Hein. C'est quelque chose qui est assez nouveau, même si ça existe évidemment depuis toujours.
Oui, non, mais je suis quand même quelqu'un de très très ouverte. Je suis pas choquée par au niveau sexuel quand on m'aime, j'ai pas de tabou, je suis ouverte à tout. Mais j'ai remarqué que ça allait crescendo et que c'était devenu vraiment, il se masturbait de plus en plus souvent, de plus en plus fort. Il lui fallait toujours des sensations de plus en plus fortes. Mmh. Et je trouve ça un peu regrettable, parce qu'à la limite, on peut lire un livre ensemble, en jouer, faire des choses. Mais là, ça devenait vraiment... J'arrivais plus. Enfin, c'est pas que j'arrivais plus, mais j'étais vraiment pas à la hauteur. Et je pense qu'il n'y a pas une femme qui peut rivaliser avec ça. Et c'est dommage, parce que on perd complètement pied. On peut pas rivaliser avec ces vestiges.
Mais je crois qu'il faut surtout pas essayer de rivaliser, parce que vous êtes pas, enfin c'est pas sur le même tableau, me semble-t-il, non?
Non, c'est pas sur le même tableau. On est dans quelque chose de... Les addicts, enfin les gens accros au sexe sont des gens qui sont malades, comme des gens qui ont un diabète ou une grippe, mais une grippe très prolongée. Donc il faut d'abord, à mon avis, les soigner, les aider. Et après, dans le second temps, ça aurait pu être n'importe quel type de support.
Ouais, c'est de la rééducation,
de la rééducation entre guillemets comportementale. Mais il faut d'abord que ça soit stabilisé, et après on peut faire d'autres choses. Mais rivaliser avec des supports pornographiques, ça fonctionne pas, puisque c'est comme rivaliser avec un alcoolique avec sa bouteille d'alcool.
Du coup, petit à petit, nos relations sexuelles se sont...
Espacées, oui. C'est ça qui a mis fin à votre histoire?
Ah oui, parce que moi je suis une petite gourmande, enfin je suis normale, je pense. C'est quoi que quand j'entends certains témoignages, je pense que je fais partie...
Oh, vous
gourmande.
Êtes un peu addict quand même, Corinne, un tout petit peu.
Oui, peut-être pas addict, mais j'aime.
Vous aimeriez bien votre orgasme par jour?
J'aimerais bien, oui. Pas contre du tout, mais à la fin, il se laissait faire, il me disait, je te fais don de mon corps, fais ce que tu veux. Donc en fait, je m'en servais un petit peu comme d'un goût de michier, je faisais ce que j'avais à faire, je prenais mon plaisir, je cherchais plus à lui rendre le hommage, parce que de toute façon, je n'y arrivais pas, et ça l'intéressait pas. C'est ça surtout qui est dramatique, c'est que ça ne l'intéressait pas, ces séances de masturbation.
Mais on a l'impression que derrière tout ça, il devait y avoir quelqu'un de presque déprimé, non? Ça ne l'intéressait plus, au fond.
Non, c'est possible.
Ça ne l'intéresse plus, au point que je me suis même demandé s'il n'était pas plutôt intéressé par les garçons. Moi, à un moment donné, je disais, c'est pas possible, il va me ramener un jour un garçon. J'avais l'impression que les femmes ne l'intéressaient plus. Et puis bon, petit à petit, on s'est séparés, on est toujours en très bon terme, on est amis. Bon, j'ai jamais essayé de lui trouver une solution, parce que c'est difficile d'en parler, et que je sentais que de toute façon, avec moi, c'est pas avec moi qui
fallait... Ça avait cassé quelque chose, hein. De toute façon, c'est ça aussi le problème, c'est qu'à un moment donné, la partenaire n'a plus envie. Hein.
Tout à fait, on voit bien comment... Enfin... Il commence avec des supports, beaucoup de masturbation, il augmente sa dose, et puis il y a un retentissement sur le couple. C'est vraiment un schéma très très classique.
Et donc ce qu'aurait dû faire ce couple, c'est venir consulter très vite.
Très vite.
Merci beaucoup Corinne de votre témoignage qui est en effet très très parlant. On continue Nicolas à tester pour nous un masturbateur. Donc ça c'est un Tenga Deep Fold Soft que l'on trouve sur le site neoplaisir.com. Bonjour Nicolas.
Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité.
Donc
bonjour.
Le principe est simple, hein, c'est une sorte de tube.
C'est exact, oui. Donc un tube.
On ouvre. Et il y a un petit trou très lubrifié.
C'est exact. Donc, c'est un tube qui fait en moyenne une bonne vingtaine de centimètres de long sur une dizaine de au niveau du diamètre. C'est vrai qu'on se sent relativement très à l'étroit à l'intérieur.
Oui.
Donc,
je vais vous faire un petit aveu, Nicolas. Il y a quelqu'un dans le studio tout à l'heure, en regardant mon jouet intime, je dirais pas qui c'est, qui m'a dit « Oh ben là, on n'a pas besoin de faire de cunis. Hein. » Voilà, je vois que vous avez compris de quoi je parle. Bon.
Oui, oui, donc... Non, c'est vrai que... par contre, ce qui manque, c'est vraiment une notice... d'emploi en français, puisque toutes les inscriptions, malheureusement...
Ça, c'est invraisemblable, quand même, qu'on ne prenne pas la peine de faire un petit bout de papier écrit en français pour qu'on comprenne. Remarquez, il ne faut pas sortir quand même de Polytechnique pour comprendre comment ça marche, Nicolas.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que, comme la petite capsule qui se situe sur l'extrême...
Oui, l'autre extrémité, oui.
Voilà, donc pour la pression, pour la mise à l'air libre... Celle-ci, il faut l'enlever. Donc, c'est vrai que dans le... moi, quand je l'ai utilisé pour la première fois, mais je ne l'ai pas enlevé immédiatement. Au début, je n'ai pas été curieux pour savoir ce qu'il y avait dessous.
Et vous avez failli étouffer.
La bête est devenue bleue. Non, c'est...
Oui, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est pas si évident que ça. C'est la première fois qu'on découvre ce genre d'objet. Vous en aviez visiblement jamais vu, Laurent.
Non, j'en avais jamais vu. Et faire un message de prévention. C'est chacun son tanga. Hein. Ne pas partager son tanga entre amis.
Oui. Non. Puis bon, c'est vrai que. Il faut pas aller jusqu'au bout puisque je sais pas au niveau de l'hygiène
ou alors avec un préservatif sinon en effet à nettoyer ça devient compliqué oui
voilà tout à fait donc s'arrêter au bon moment ou se couvrir mais c'est surtout enlever cette petite capsule et le petit point négatif également c'est lors de l'utilisation un petit sifflement apparaît.
Oui, un petit sifflement apparaît.
Au niveau du petit orifice.
Ah oui, d'accord. Oui, ça fait un appel d'air et ça siffle.
Voilà.
Ouais.
Et donc à ce niveau-là, ça fait un petit sifflement qui est.
Au moins, vous avez pas l'impression d'être seul.
Tout à fait. Oui, on a une impression d'être accompagné, mais bon, avec une femme qui siffle, je sais pas si vraiment.
Ça dépend comment elle siffle. Si elle fait. Ça, c'est
ah,
vrai,
oui,
ça.
Non, c'est... Oui. Là, je vous comprendrai, mais ça serait peut-être bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Bon,
mais
vous
par
êtes...
contre, oui. C'est très doux à l'intérieur.
D'accord.
Bon. Mais je pense qu'il y a de très gros progrès à faire au sujet des outils pour l'homme.
Pour l'améliorer. En tout cas, vous n'êtes pas complètement emballé, on l'entend bien. Quelle note vous lui donnez à ce Tenga?
Je lui donne un petit 6.
Un 6 sur 10, voilà. Tenga Deep Fold Soft, que l'on trouve sur le site neoplaisir.com. Merci Nicolas de l'avoir testé pour nous. Merci.
On se retrouve après les infos, bien sûr. Continuez à appeler le 3216 touche 6 pour participer à notre jeu La Plage RMC Club Marmara. Et bien sûr, réagissez 3216. Nous aurons Patrick qui est accro du net tout de suite après les infos. Mais tout de suite, c'est notre histoire coquine du jour. Lionel Busson est avec nous, que l'on retrouve tous les soirs au théâtre du gymnase dans Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières.
Alors aujourd'hui, Brigitte, je vais vous parler d'une nouvelle position amoureuse. Oui, je sais, c'est nouveau, c'est américain, ça vient d'arriver. Ça s'appelle la position rodéo. Alors, retournez madame sur le ventre, pénétrez-la délicatement, prenez ses seins des deux mains bien fermement et là, dites « On dirait vraiment ceux de ma collègue Sylvie ». Et à partir de là, il faut tenir 8 secondes, c'est parti, boum !